France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Ils sont plus de 8 millions dans notre pays à soutenir, accompagner un parent, un enfant, un conjoint ou un proche en situation de fragilité. Ils sont plus de 8 millions à être donc aidants. Et un chiffre qui ne va cesser d'augmenter dans les années à venir du fait du vieillissement de la population et de l'éloignement familial toujours plus grand. La raison de cet accompagnement, une maladie neurodégénérative, au premier rang desquelles la maladie d'Alzheimer, mais également le Parkinson, les cancers, le handicap. Et on y pense peu, mais la schizophrénie, les maladies bipolaires, les addictions sont aussi des affections pour lesquelles les proches sont mobilisés, des proches qui ont besoin de soutien, de reconnaissance et d'aide. Dans ce domaine, il y a encore beaucoup à faire et il y a urgence parce que ces aidants payent un lourd tribut à cet accompagnement. Un aidant sur trois meurt avant son aidé. Hommes, femmes, adultes, adolescents, qui sont ces aidants? Quel est le retentissement de leur engagement sur leur vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle? Comment gérer leur souffrance, leur culpabilité? Quel lien ont-ils avec les soignants? L'aidant, c'est souvent non choisi, rarement anticipé et rarement reconnu. Alors comment aider les aidants? Réponse avec un psychiatre, auteur d'un livre remarquable sur cette question. Romain Rey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à Lyon, au centre hospitalier Le Vinatier et aux hospices civils de Lyon, responsable des centres experts fondamentaux de Lyon et du CLAP, c'est le centre lyonnais des aidants en psychiatrie, maître de conférence à l'université Lyon 1 et co-auteur avec Nicolas Franck de ce livre donc qui vient de sortir chez Odile Jacob qui s'appelle « Aidants et fiers de l'être ». Je disais, c'est un livre absolument remarquable, à mettre vraiment dans les mains de tous les aidants, ce qui fait quand même plus de 8 millions de personnes, je le disais, et parce qu'il est extrêmement concret, extrêmement humain, et qu'il s'adresse, et ça c'est effectivement très intéressant, aussi aux aidants de personnes atteintes de maladies psychiatriques, ce qui est rare parce qu'on y pense peu. Déjà, pourquoi vous avez écrit ce livre ?
Alors c'est un livre qui a été écrit à deux, donc c'est un livre de deux praticiens, on est tous les deux psychiatres. Concrètement, nos missions nous amènent à côtoyer fréquemment l'entourage des personnes, des familles. Et avec le temps, on a l'un et l'autre développé une expertise autour de l'accompagnement des aidants en psychiatrie. Avec le temps, on s'est aussi aperçu que parmi les besoins et les attentes des aidants, certains sont transversaux et concernent pas uniquement les aidants en psychiatrie, mais les aidants en général. Et on avait à cœur de construire un livre concret qui rassemble, synthétise finalement un ensemble de ressources, d'informations importantes pour tous les aidants et les mettre à leur disposition pour les sensibiliser.
Alors, on va commencer par des notions de base. Hein. C'est quoi être aidant ?
Alors, être aidant, il y a une définition désormais autour de ça, c'est accompagner une personne régulièrement et fréquemment, une personne qui est en perte d'autonomie du fait de la maladie, du vieillissement ou d'un handicap, et le faire dans un versant non professionnel, c'est-à-dire non rémunéré.
Alors, je disais qu'il y avait plus de 8 millions dans notre pays, c'est qui ? C'est le plus souvent des femmes un peu âgées, c'est qui ?
Alors effectivement, si on regarde les chiffres, les statistiques, c'est essentiellement des femmes et puis des personnes d'âge mature en lien avec les phénomènes de vieillissement de la population. Mais pour nos auditeurs, je dirais que ça peut être tout un chacun. Et donc c'est aussi ça qui est vraiment très important. On sera amené à être aidant probablement tous à un moment ou à un autre de notre vie, de notre parcours. Et parfois on l'aime sans en avoir véritablement conscience. Et c'est aussi un des objectifs de ce livre que de faire un peu ce pas de recul et de se dire mais est-ce que moi-même je suis pas dans une situation où je suis moi-même aidant en ce moment.
Oui, et c'est effectivement très important parce que vous pensez bien sûr aux malades, mais à tous ceux qui s'en occupent parce que les conséquences de cet aidant c'est lourdes pour eux au plan physique et psychique. Je disais que ce chiffre franchement impressionnant, un aidant sur trois meurt avant son aidé. De quoi ils souffrent ces aidants ?
Alors, il y a une formule un peu consacrée, c'est une très jolie formule, mais on parle de fardeau des aidants, ça désigne un peu l'impact négatif sur une personne qui est aidant. Ce fardeau, ça revêt plein de facettes différentes, il y a des facettes matérielles, financières, il y a des facettes aussi sur la santé physique et psychique. Sur la santé psychique, ça peut s'apparenter à des symptômes comme un burn-out. Le burn-out, c'est pas un diagnostic médical, mais c'est la formule qui désigne un épuisement en lien avec une surcharge professionnelle, donc la fatigue physique mais aussi psychique, l'épuisement, les douleurs, les difficultés de sommeil, l'anxiété, la tristesse. On peut observer ces phénomènes-là aussi chez les aidants, un burn-out lié à être aidant. Il y a aussi des conséquences sur la santé physique. On voit souvent des aidants dans les salles d'attente qui accompagnent leurs proches pour qu'ils soient là au rendez-vous. Quand on a la curiosité de leur demander à eux à quand remonte leur dernier rendez-vous médical, c'est des moments à plusieurs années, alors même qu'ils dorment pas bien, qu'ils ont des douleurs, que ça va pas du tout.
ou qu'éventuellement ils ont besoin de dépistage de différentes pathologies et qu'en fait tout est focalisé sur le malade.
Oui, c'est souvent ça. Les aidants, souvent, leur priorité, c'est de bien accompagner leurs proches, de faire tout pour que les choses se passent bien pour lui et qu'il n'y ait pas de perte de chance. Et souvent, ce faisant, ils se placent en arrière-plan, à la fois du point de vue de leurs loisirs, aussi de leurs objectifs, de leurs propres projets, mais aussi de leur santé, avec les conséquences qu'on vient de décrire.
On va commencer par le cas le plus fréquent des maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer. Comment ça se choisit les aidants? Qui c'est? C'est le conjoint? C'est un des enfants? C'est le plus souvent une fille? Le choix dans une fratrie, par exemple, se fait comment?
Alors souvent, parfois dans de rares cas, ça peut être anticipé, mais bien souvent, c'est presque un choix un peu d'évidence, c'est-à-dire c'est souvent des choix en lien avec la proximité à la fois géographique et puis affective d'un membre de la fratrie vis-à-vis des parents ou du parent qui est en situation de perdre son autonomie. Ça a un impact sur les dynamique familiale.
Oui, c'est effectivement très curieux parce que l'aidant, tout d'un coup, va avoir toute la charge. Hein. C'est un vrai dévouement quand même d'accepter d'être aidant. Et pourtant, vous le racontez, ça peut créer des querelles et des tensions au sein de la famille.
Alors, au sein de la famille, quand on est dans une configuration comme celle que je viens de décrire, et qu'il y a un aidant principal qui prend toute la charge ou la charge majeure de l'aidance, cette personne-là, elle peut recevoir des conseils plus ou moins bien intentionnés de la part des autres membres de la famille, parfois des critiques ou des choses qui sont vécues comme des critiques, ça peut être extrêmement adverse. Parfois, il n'y a pas de retour, ça peut être aussi vécu comme de l'indifférence, ça peut en être aussi également. Donc, toutes ces choses-là, le fait d'avoir un proche qui perd en autonomie et qu'un aidant principal se mette en position, désigné ou non par les autres membres de la famille, ça rebat les cartes de la dynamique et des relations familiales très fortement.
Et on sort de l'Alzheimer, quelle que soit la pathologie, les aidants racontent souvent un sentiment de rejet.
Alors, le rejet, il rejoint un peu la question de l'isolement. L'isolement que peuvent rencontrer les aidants, il est plurifactoriel, et ça peut être un isolement actif ou un isolement de leur part, mais aussi un isolement vécu. Alors, l'isolement vécu, c'est un aidant qui a de moins en moins de temps à consacrer à ses loisirs, à rencontrer d'autres personnes, il n'entretient plus son réseau social, il ne le renouvelle pas, ou alors il ne parle que de ce qui est désormais son quotidien, c'est-à-dire accompagner son proche, et il est moins invité, moins visible. L'isolement actif, ça peut être aussi lié au fait de se sentir coupable, de prendre du temps pour soi, ou de ne plus en avoir du tout, parfois avoir un peu honte de sa situation, ne pas se sentir compris et s'isoler de ce fait.
Et justement, est-ce que cet isolement, il est plus marqué quand on est aidant d'une personne atteinte d'une maladie psychiatrique?
Oui, parce que dans la maladie psychiatrique, il y a aussi la dimension de la stigmatisation. Vous savez qu'il y a une stigmatisation qui est bien connue, qui affecte les personnes qui vivent avec un trouble psychique, mais il y a aussi cette stigmatisation, elle est tellement forte qu'elle rejaillit, entre guillemets, aussi sur l'entourage. Et cette stigmatisation, elle peut être double, à la fois la vision qu'a le grand public sur les aidants, l'entourage de la personne, qui peut être culpabilisé, qu'on peut rendre responsable de la survenue du trouble, alors que c'est absolument faux, ou dont on peut considérer qu'elle ne fait pas bien son devoir d'aidant. Mais cette culpabilisation, parfois, elle est même intériorisée. C'est-à-dire l'entourage, les aidants eux-mêmes ont l'impression d'être de moindre valeur en comparaison d'une personne qui ne serait pas dans leur situation.
Un autre sentiment fréquent que vivent les aidants, c'est cette culpabilité. Qui est liée à quoi ?
Alors la culpabilité, c'est pareil, ça peut revêtir plein d'aspects différents. Bien souvent, il y a une culpabilité à ne pas faire suffisamment bien. Il y a aussi parfois une culpabilité sur qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour qu'on n'en arrive pas là, pour qu'on proche développe pas ce trouble, se trouve pas dans cette situation particulière. Il y a aussi une culpabilité parfois qui est en lien avec le sentiment de s'accorder du temps.
Qui est indispensable.
Qui est indispensable. C'est indispensable pour les aidants de se préserver. C'est tout l'esprit du livre.
Oui, c'est
voilà.
Ça.
Mais souvent, c'est vécu avec une culpabilité intense, comme si chaque minute qu'on s'accordait était une minute perdue, une perte de chance pour son proche. C'est absolument pas le cas, mais c'est un réflexe bien présent.
Et c'est rassurant de le lire, parce que ça veut dire que les gens ont le droit de s'accorder ce temps, de se dire qu'on fait pas assez. Tout ça, c'est normal.
Il faut la normaliser, cette expérience. Tous les aidants la vivent. Elle est vécue difficilement, mais c'est aussi tout l'intérêt de rencontrer d'autres aidants, pas rester tout seul et de se rendre compte que ce sentiment qui peut être vécu avec beaucoup de culpabilité, il est général et que d'autres l'ont vécu, que c'est normal et que ça n'entache pas la relation qu'on a vis-à-vis de son proche et que ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins ni moins bien. C'est simplement qu'on est humain et qu'on vit les choses.
On imagine aussi que lors de maladies longues, les relations entre l'aidé et l'aidant vont évoluer avec le temps, avec le poids à gérer qui augmente. Là aussi, il peut y avoir, et c'est normal, de la colère, des émotions interdites, tabous, voire de se dire que tout ça s'arrête.
Alors ça, c'est aussi une dimension de la culpabilité, c'est le fait de... avec le temps, avec l'usure du temps, la fatigue, l'épuisement, de parfois avoir des émotions qu'on peut juger négatives vis-à-vis de son proche. Ça, c'est encore plus difficile à vivre, se dire j'ai envie de tout laisser tomber puis de le laisser partir. Parfois, même certains aidants nous disent des moments, je me dis j'aimerais mieux qu'il parte. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement douloureux à vivre, mais c'est pareil, il faut le normaliser, c'est une réaction normale, ça veut pas dire qu'on est de moins de valeur ou qu'on aime moins son proche, c'est tout simplement que c'est un signe d'épuisement, c'est un signe d'alerte, ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi et mettre en œuvre des actions pour justement arriver à retrouver un espace d'équilibre personnel.
Alors avant de parler justement de ces actions, pour rester dans ce domaine des maladies de l'âge, c'est quoi la conséquence de devenir aidant de ses parents ? Normalement, nos parents nous protègent, ils s'occupent de nous. Là, c'est l'inverse qui va se créer. Je voudrais que vous, avant que vous nous répondiez, qu'on écoute Frédéric qui témoignait sur France Inter dans le téléphone sonne. Écoutez.
J'ai été aidant de 2014 jusqu'au décès de mon père en 2022. Évidemment, plus le temps passe, plus la situation se dégrade dans ce genre de situation. Et plus c'est difficile de... Ça percute votre vie aussi, évidemment. Vous avez évoqué l'inversion des rôles, c'est-à-dire que dans un premier temps, on s'adresse à son parent comme s'il était normal. Ça, c'est très compliqué. Ça rend la relation difficile. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic dans la tête qui se produit où on accepte psychologiquement cette inversion des rôles, où on devient le père de son père. Ça, c'est quelque chose de très particulier.
Effectivement, ça inverse la normalité.
Exactement, on se retrouve dans la situation complètement inverse de ce qu'on a vécu. On n'est plus conduit par ses parents, mais on est amené à avoir ce regard tutélaire sur eux qu'ils ont pu porter sur nous avant. Donc ça apporte pas mal de confusion sur le plan émotionnel, notamment. Je pense que dans la situation du vieillissement, c'est aussi teinté de des perspectives qui sont souvent quand même un peu sombres. Dans certaines situations d'aidance, il y a l'espoir d'un rétablissement. Là, on avance vers quelque chose qui est un peu inéluctable et qui teinte les choses. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on a abordé un peu précédemment, qui est l'impact sur la dynamique familiale. Le sentiment parfois très agréable d'être soutenu par sa fratrie, d'être compris. Et parfois l'inverse, le sentiment d'être abandonné, voire même d'être critiqué ou incompris dans tout ce qu'on apporte au quotidien.
Alors face à tout ça, évidemment, on va essayer de parler positif et solutions. Je le disais, d'ailleurs c'est vous qui le dites, l'aidant c'est rarement choisi, non anticipé et rarement reconnu. Alors, on va déjà parler des soignants, parce qu'il y a de nombreux aidants qui évoquent leur lien difficile, comme si les soignants ne mesuraient pas vraiment l'importance de leur place dans la maladie du proche. Est-ce que c'est vrai et comment on explique ça ?
Alors, c'est vrai, je pense que ça s'explique par plein de choses différentes, mais notamment parce que en tant que soignant, on est insuffisamment sensibilisé à la situation des aidants, à la fois pendant nos études, mais aussi plus tard, quand on se forme, on continue en tant que professionnel.
Moi, dans les études de médecine, on va jamais parler d'aidants.
Moi non plus. Voilà, je vous rassure.
Maintenant,
on essaie de
moi.
Le faire, mais c'est un peu nouveau. Ensuite, je pense que il y a certains obstacles. Le secret professionnel, parfois, on en a une vision trop exhaustive, comme si le secret professionnel disait d'interagir avec les familles. C'est absolument pas vrai. Il y a plein de choses qu'on peut dire aux familles tout en étant respectueux du secret professionnel. Et puis, parfois, il y a certaines informations qui relèvent du secret professionnel, et si la personne ne souhaite pas informer sa famille, c'est une décision tellement importante qu'elle ne peut pas être considérée comme définitive. Il faut pouvoir la réexplorer avec elle parce que c'est presque une perte de chance. Voyez. Ensuite, je pense qu'il y a une moindre compréhension du vécu des aidants. Et donc ça aussi, c'est important. Il y a différentes manières de s'y prendre, mais la manière la plus puissante, c'est de faire rencontrer aux professionnels de santé des aidants. Ça s'appelle le contact. C'est rencontrer, c'est entendre des témoignages. Et à l'heure actuelle, on a aussi des pères aidants familiaux qui viennent dans les hôpitaux.
Donc, expliquez ce que c'est des pères aidants.
Alors, Les pères aidants, c'est apparu plutôt du côté usager. Les pères aidants, c'est des patients rétablis. Les pères aidants familiaux, c'est des familles qui ont été aidants, qui ont été aidés à leur tour, qui ont pris du recul par rapport à tout ça et qui désormais souhaitent pouvoir un peu rendre l'appareil, changer le système, faire en sorte que les aidants soient mieux aidés et qui peuvent intervenir à ce titre-là, soit de manière bénévole, comme généralement membre d'une association de famille ou d'un collectif. Et depuis plus récemment, ils peuvent aussi être salariés, professionnalisés. Et on a un DU, un diplôme universitaire, qui forme des pères aidants familiaux professionnels à Lyon. C'est une formation très récente qui existe depuis 3 ans, mais qui est pleine de perspectives.
Dans le parcours de l'aidant, vous parlez d'autocompassion, notamment pour surmonter le rejet. C'est quoi ?
Une chose très importante quand on est aidant, c'est déjà de réaliser qu'on est aidant. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé ça, c'est de comprendre que tout en priorisant son proche, il faut aussi se préserver soi-même, s'accorder des temps de loisirs, s'accorder du repos, avoir des attentes réalistes, c'est-à-dire pas s'attendre à être parfait. On peut pas être parfait. Avoir des attentes réalistes, se dire que ce qu'on fait, c'est bien, et que parfois, même quand on a fait quelque chose et qu'avec le recul, on se dit on aurait pu faire mieux, c'était déjà bien de le faire comme ça. Donc avoir ce regard bienveillant vis-à-vis de soi et se préserver, parce que c'est indispensable à la fois pour soi, mais aussi pour son proche, puisque la situation des dents, c'est souvent quelque chose qui s'inscrit dans la durée.
Quand on vous entend parler depuis le début de cette émission, on mesure à quel point c'est difficile d'être aidant, à quel point le rôle de père aidant, c'est essentiel. Effectivement, il y a aussi des associations qui sont très utiles. Mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas que ces aidants soient aidés pour la plupart par des spécialistes, par des psys, soient accompagnés, même si, encore une fois, ils ne vont pas s'accorder forcément ce temps-là pour eux?
Alors, tous les aidants ont besoin d'être informés, d'être formés, d'être soutenus.
Et ça, c'est franchement le caractère extrêmement intéressant de votre livre.
Donc ça, c'est vraiment un impondérable. Tous les aidants ont des questions, ont des attentes. Leurs questions, elles portent souvent sur mieux comprendre ce qui arrive à leurs proches, comment on s'y prend pour l'accompagner, comment ça va évoluer, quelles sont des techniques pour gérer le quotidien. Donc ça peut être des techniques pratico-pratiques, comment lever un proche qui est tombé sans se faire mal, mais ça peut être aussi des techniques qui sont des savoir-faire, comment bien communiquer, préserver la relation avec lui. Ils ont aussi besoin de techniques pour se préserver. Alors plus on est en capacité de leur apporter ces informations, ces formations tôt, et plus on est dans la prévention, et moins on a à faire avec des situations de burn-out. Comme à l'heure actuelle, on est encore un peu en retard par rapport à tout ça. Bien souvent, les aidants qu'on accueille, ils sont dans des situations où ils ont de l'anxiété, de la dépression parfois. Donc ça peut être nécessaire dans ces cas-là de les orienter vers les soins, c'est-à-dire leur généraliste, un psychologue, un psychiatre. Mais dans un monde où les choses seraient bien construites et qu'on s'y prendrait suffisamment tôt, on aurait moins besoin de ça. Un besoin supplémentaire des aidants, c'est aussi de rencontrer d'autres aidants. Ça, c'est indispensable. Mmh. Ce besoin d'information, il est théorique, recueilli auprès des professionnels, mais aussi expérientiel, partagé avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose que soi.
Et il faut bien dire que pour ça, il faut un peu de temps. Il faut pouvoir s'accorder de toute façon des moments de répit en laissant son proche à la charge de quelqu'un. Il y a des solutions quand même, il y a des choses qui existent, même si les aidants ne le connaissent pas.
Alors ça, c'est le répit, très juste. Il y a des structures de répit qui commencent à se développer un peu partout en France. Ça peut prendre différentes formes. Confier son proche pour quelques heures, une journée. Parfois, c'est des vacances qui sont organisées comme ça. Donc ça, c'est une ressource qui est très intéressante. Il y a des expérimentations à Lyon, dans la ville où je suis, il y a la Maison du Répit, qui est une expérimentation qui commence à diffuser au niveau national. C'est pas disponible aussi bien pour toutes les situations. Dans le champ de la psychiatrie, ça reste encore insuffisamment déployé, mais c'est extrêmement intéressant. Il faut en avoir entendu parler. Et il y a des sites internet, notamment France Répit, qui référencent un peu tout ça. Et j'encourage les auditeurs à s'y rendre.
Alors, je disais que les aidants ont besoin d'être reconnus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un statut d'aidant qui fait qu'il est reconnu pour ce qu'il est ?
Alors, le statut d'aidant, il commence à être reconnu, il est intégré dans le code de l'action sociale. Il y a une définition qui est celle que je vous ai donnée au tout début de notre échange. Il y a des droits qui commencent à être ouverts pour les aidants. Pour ceux que ça intéresse, je les invite à se rendre sur le site de Ma Boussole Aidant, qui les répertorie, les explique assez bien. Bon, ils sont insuffisants. Voilà, ils sont trop limités dans le temps, insuffisamment puissants pour accompagner les choses, mais ils ont le mérite d'exister et je pense qu'ils vont être amenés à se développer parce que on est dans une question de société. Chacun d'entre nous est ou sera aidant à un moment ou à un autre de son parcours et c'est une situation qui va probablement encore s'accentuer dans les années à venir.
Alors on a évoqué évidemment les conséquences financières d'être aidant parce que bien souvent les aidants passent à temps partiel, que les aidants touchent une allocation quand ils prennent un congé de 65 5 euros par jour, ce qui peut pas les mener très très loin. Donc il y a des aides financières qui existent, encore faut-il les connaître.
Bah exactement, elles sont méconnues et puis un peu comme toutes les mesures administratives, elles sont pas toujours faciles lorsqu'on souhaite y accéder ou savoir si on est vraiment éligible à telle ou telle mesure. Donc la meilleure solution dans ces situations-là, c'est d'avoir une aide administrative, ça peut être auprès d'une assistante sociale, dans les associations de famille qui font beaucoup cette fonction-là. Et puis il y a ces sites internet, je parlais tout à l'heure de Ma Boussole Aidant, où les choses sont assez bien expliquées. Et donc ces ressources-là, il faut pouvoir s'en emparer parce que il y a des droits et il faut pouvoir en bénéficier.
Quand on est aidant d'un proche atteint de troubles psychiatriques, il y a des programmes très spécifiques, je peux citer Bref, CLAP et bien d'autres, qui sont mis en place pour aider les aidants. C'est quoi et comment les aidants, là aussi, peuvent-ils y accéder ?
Alors, dans le champ de la psychiatrie, les ressources pour les aidants, elles sont proposées par différents intervenants. Il y a les soignants, les professionnels de santé, mais il y a aussi les associations de famille. Dans le champ de la psychiatrie, il y a une association de famille qui s'appelle l'UNAFAM, qui existe depuis 60 ans, un peu plus maintenant, qui maille le territoire national avec des ressources de très grande qualité. Et puis, la possibilité de rencontrer d'autres aidants, de se tisser un réseau de soutien, donc c'est extrêmement qualitatif. Et pour les ressources, du point de vue des professionnels de santé, ça prend la forme de programmes d'éducation thérapeutique. Donc c'est entre guillemets des formations avec du savoir théorique prodigué par des professionnels de santé, mais aussi du savoir expérientiel qui intègre des messages apportés par des personnes qui ont été aidantes. Et pour le programme Bref, par exemple, c'est 3 rendez-vous d'une heure où on reçoit une famille en l'absence du proche qui les accompagne et avec des objectifs très très clairs, c'est-à-dire être entendu, être écouté, être valorisé, reconnu dans son rôle, pouvoir avoir des premières réponses à ses questions prioritaires, et puis en troisième séance, faire un pas de côté, et puis commencer à réfléchir à l'impact que ça qu'a la situation sur soi-même, et préparer la suite. C'est une porte d'entrée pour un accompagnement vers les aidants, et tout de suite on leur dit, après Bref, tout ce qu'il existe pour eux, de manière à ce qu'ils le connaissent et qu'ils mettent pas 10 ans avant de s'en apercevoir, ce qui est encore trop souvent le cas actuellement.
Ce qui est passionnant, c'est qu'on constate que ça aide l'aidant, mais ça aide aussi les aidés.
Alors ça, c'est quelque chose qui est démontré par la littérature scientifique médicale dans toutes les disciplines. Alors je vais parler de la mienne puisque c'est celle que je connais le mieux. Mais quand on aide les aidants, on a un impact extrêmement puissant sur les personnes qui vivent avec un trouble. Et par exemple, en psychiatrie, pour les personnes qui vivent avec une schizophrénie, l'aide aux aidants, c'est la deuxième intervention thérapeutique la plus puissante après les traitements médicamenteux.
Pour réduire les rechutes.
Réduire les rechutes, les réhospitalisations de -20 à -40%. Donc c'est extrêmement puissant. C'est vrai aussi pour les autres disciplines. Donc c'est un vrai investissement aussi pour une prise en charge plus humaniste, mais aussi pour améliorer la performance du système de santé.
On continue cet entretien juste après notre chronique science, avec aujourd'hui une question qui agite les démographes. Avons-nous atteint les limites de la longévité humaine en Europe ?
Carnet de santé.
Pourquoi l'espérance de vie ralentit-elle dans les pays riches ? La France, comme tous les pays à haut revenu, a connu une progression spectaculaire de son espérance de vie depuis le 19e siècle. Malgré quelques reculs ponctuels, comme les guerres évidemment, les grandes pandémies ou encore la canicule de 2003, elle est passée d'environ 40 ans à plus de 80 ans. Mais depuis une quinzaine d'années, cette dynamique marque le pas. Le gain d'espérance de vie stagne au Royaume-Uni et aux États-Unis par exemple, et il ralentit ailleurs, et cet essoufflement est à l'origine d'un important débat dans la communauté scientifique. Florian Bonnet est économiste, démographe et chargé de recherche à l'INED, l'Institut national des études démographiques.
Dans la communauté scientifique, on a un débat très important et qui oppose deux écoles. Une première école qui va considérer qu'il n'y a pas de limite à l'augmentation de l'espérance de vie, et que si l'on regarde l'histoire récente, on a une augmentation continue de l'espérance de vie maximale que l'on observe dans le monde. Je disais aux alentours de 2 à 3 mois de gain d'espérance de vie par an. Donc ça, c'est la première école. Et puis, on a une deuxième école de démographes qui va considérer qu'il y a une limite à cette espérance de vie et qu'au-delà de 110, 115 ans, on ne pourra pas aller au-delà de ce niveau-là. Et donc, on a de nombreux articles scientifiques qui sortent autour de cette question, autour de ce débat, à savoir s'il y a une limite à la longévité humaine et donc une limite à cette espérance de vie à la naissance.
Ce débat est alimenté par des études tout à fait récentes. Le problème, c'est qu'elles sont globales. Elles prennent en compte l'espérance de vie à la naissance à l'échelle des pays. Or, chaque nation peut cacher des disparités potentiellement fortes ou en tout cas non négligeables. C'est le travail de cette nouvelle étude parue dans Nature Communications, analyser les gains d'espérance de vie en Europe avec des données beaucoup plus fines et à l'échelle régionale. 13 pays sont étudiés entre 1992 et 2019, répartis sur 450 régions. Résultat, eh bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, nous continuons bien à repousser les limites de la longévité humaine, mais seulement dans les régions dites pionnières, celles qui étaient déjà au plus haut. Pour les autres, une fracture s'est opérée.
Avant 2005, on avait des régions en retard. Donc, schématiquement, les régions de l'Allemagne de l'Est, certaines régions du Royaume-Uni, certaines régions du Portugal également. Donc ces régions-là qui étaient en retard rattrapaient très rapidement leur retard. Donc ils avaient des gains d'espérance de vie qui étaient très rapides et qui ont permis une convergence des situations à l'intérieur de l'Europe occidentale. Donc c'était une bonne chose. On avait des gains d'espérance de vie très rapides en Europe et puis une convergence. Donc vraiment, on a appelé ça l'âge d'or d'une certaine manière de la longévité en Europe. Et puis à partir de 2005, on a une vraie cassure. Là, on a quelque chose qui s'inverse avec des gains d'espérance de vie qui diminuent fortement en Europe, prise de manière générale, et puis une divergence qui s'opère à l'intérieur de l'espace européen avec bien les régions pionnières qui continuent à gagner des années d'espérance de vie à un rythme similaire, mais des régions en retard qui, elles, voient leur gain d'espérance de vie diminuer très rapidement.
Dans notre pays, les Hauts-de-France font partie des régions où le gain d'espérance de vie a ralenti depuis 2005 pour atteindre 77,5 ans pour les hommes en 2019, soit 2 années de moins que le reste du pays. Et il y a un âge charnière. Dans toutes ces régions en retard, c'est la mortalité entre 55 et 74 ans qui, au mieux, stagne, au pire, augmente. C'est donc le moteur principal de ce ralentissement, mais ça ne dit rien des causes. C'est l'étude la plus complète menée à ce jour et l'analyse s'arrête en 2019. L'enjeu est donc de la poursuivre à la fois temporellement, avec la période post-pandémie, mais aussi géographiquement, en incluant davantage de pays, notamment dans l'Europe de l'Est. Ça, c'est pour un volet encore descriptif. L'autre perspective, c'est de comprendre précisément pourquoi ce décrochage se produit. Quelles dynamiques conjoncturelles sont en jeu? Elles sont certainement multiples, il n'y aura pas de réponse unique, mais une chose est claire, les inégalités d'espérance de vie ne se jouent pas seulement à l'échelle des pays, mais aussi au sein des territoires, et donc les moyens de lutte se situent aussi au niveau local et régional.
Romain, je voudrais qu'on finisse cet entretien en parlant des dents un peu particuliers que sont les jeunes adultes, voire adolescents, qui prennent en charge souvent leurs parents. C'est quoi la spécificité de cette aidance et ses conséquences?
Alors, on disait que les aidants, il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour mieux les aider. Les jeunes aidants, c'est vraiment les oubliés du système à l'heure actuelle. Alors, ce qui les caractérise, c'est la diversité des situations. Il y a des jeunes gens qui sont vraiment dans une situation d'aidant principal de leurs parents, d'un frère ou d'une sœur. Il y a aussi les jeunes proches, c'est-à-dire c'est pas eux qui assument l'aidance principale, mais ils ont des questions autour de ça. Alors ce qui les caractérise, c'est que les jeunes aidants, c'est des jeunes personnes qui sont dans une trajectoire de construction, dans une trajectoire de vie, qui sont finalement impactées par cette situation-là. Alors il y a des aspects positifs, parce que ça les amène
mature
à développer des compétences, à développer une maturité avant l'heure, mais il y a aussi des aspects négatifs. Il faut leur permettre d'avoir leur vie d'enfant, de pouvoir conduire leur projet d'études, de tisser leur réseau amical, comme toute jeune personne. Donc voilà, il y a des initiatives qui commencent à se créer, je voulais en dire un mot. Il y a des associations qui s'appellent Jeunes Aidants Ensemble, les Funambules, la Pause Brindille, et plutôt pour la psychiatrie, quelque chose qui s'appelle Jeff Psy. Tous ces dispositifs ont des sites internet, donc allez voir, c'est assez intéressant.
Voilà, vous retrouvez tout ça dans ce livre, mais vraiment je recommande vivement à tous les aidants, à tous ceux qui risquent de le devenir. Donc que vous co-signez avec Nicolas Franck, Aidant et fier de l'être, prendre soin de soi comme de son proche, chez Odile Jacob. Bravo pour ce livre, vraiment. Et merci beaucoup à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.
France Culture.